démontrer qu'il a fait l'objet d'une décision automatique, et vous devez lui expliquer notamment quel a été le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées, leurs sources. Tout ça est important parce qu'en fait, je n'aurai pas le temps de voir tout ça avec vous, mais ce sont tous des facteurs qui peuvent donner lieu à des moyens de contestation. Les paramètres de traitement et le cas échéant, leur pondération appliquée à la situation de l'intéressé. Donc là, ça va être tous les critères en fait qui sont utilisés, c'est très important, tous les critères qui sont utilisés et paramètres pour prendre la décision. Il y en a souvent des centaines en réalité. L'algorithme américain tristement célèbre Compass qui évalue le risque de récidive pour vérifier si une personne peut être mise en liberté conditionnelle ou non. Un algorithme d'une simplicité un peu basique, il fonctionne sur 137 paramètres. Donc tout ça vous devez communiquer à l'administré. La pondération, bien entendu, 137 paramètres, tous n'ont pas la même valeur pour déterminer le fameux score. Nous avons compris comment ça marche. Et enfin, les opérations effectuées par le traitement. Là, ce sont des aspects notamment d'algorithmes, alors au sens plus mathématique du terme. Dans l'affaire Parcoursup, l'affaire BAC, comment c'était avant Parcoursup ? Comment ?
Admission post-bac.
Admission post-bac, non, pas d'acronyme pour moi, parce que c'est déjà difficile, mais alors pour les étrangers, les acronymes, là, c'est juste pas possible. Donc, administration post-bac, qui finalement, suite de l'intervention de la CNIL, a dû être transformé en Parcoursup, non pas que Parcoursup ne soit pas critiqué lui aussi. Donc là, vous avez quand même des informations qui sont loin d'être négligeables. Si vous prenez le Thalys jusque dans mon pays, ça ne vous prendra pas longtemps. Et là, rassurez-vous, vous n'avez rien. On vous refusera non seulement aucune information de ce type, mais vous refusera l'accès aux documents, il faut se battre pour avoir les sources, etc. Certains de mes collègues se battent sans succès depuis des années, résultat d'être traité d'ailatollah de la vie privée par les responsables du gouvernement. Je crains que le cas de la Belgique soit plus proche. Enfin, il est extrême, mais si vous voulez, la plupart des pays se situent plutôt du côté de la Belgique que du côté de la France, d'autant plus que le Conseil constitutionnel a également fait un pas intéressant à l'égard des algorithmes auto-apprenants, vous savez, ceux qui reposent sur des réseaux neuronaux, je ne rentrerai pas du tout dans ces détails, par une décision du 12 juin 2018, où elle a déclaré que le Conseil a déclaré que ces algorithmes étaient contraires, en fait, ne pouvaient pas, étaient inconstitutionnels. En fait, on ne pouvait pas en user, puisque à la fois, comme ces algorithmes-là fonctionnent avec une boîte noire, on ne peut absolument pas vérifier que la règle qu'ils appliquent est conforme à la loi, et que d'autre part, comme on ne peut pas savoir quelle est la règle qu'ils appliquent, l'administration ne peut pas leur déléguer, leur subdéléguer en quelque sorte, le pouvoir de décision. Ça, c'est une garantie qui, me semble-t-il, est très importante dans l'état actuel des choses et dont je n'ai pas vu l'équivalent ailleurs. Alors, tout ceci explique qu'on a à la fois une mise en place généralisée, une explosion du contentieux et l'Union européenne qui intervient avec le projet de règlement sur l'intelligence artificielle où on est toujours en train, on est à la fin de la fin de la fin du trilogue, mais on n'a toujours pas d'accord et on a même des oppositions très importantes sur ce texte, avec notamment la France, semble-t-il, qui est en train de vouloir monter une coalition pour créer une minorité de blocage pour empêcher le vote de ce règlement à cet ultime stade, parce qu'il estime que ce règlement apporterait beaucoup trop de contraintes pour les développeurs d'intelligence artificielle. Et il y a un grand malentendu dans la mesure où, en fait, ce règlement est fait pour qu'on puisse développer économiquement en Europe sans entrave le marché de l'intelligence artificielle, exactement comme on avait fait il y a 25 ans pour l'Internet, et alors que la population, donc le sujet est évidemment assez haut dans l'agenda politique, la population est représentée, disons, par le Parlement européen, croit qu'il s'agit d'une loi qui est destinée à protéger les gens contre les excès de l'intelligence artificielle. Hein, bon, disons qu'il y a les deux, mais que clairement l'idée est de favoriser, d'intensifier la circulation et de remplacer un contrôle ex post par les États, par les juges, etc., par un contrôle ex ante dans lequel, alors vous voyez, il y a deux, trois choses qui sont interdites. Le risque faible ou nul, où il n'y a pas de problème. Le risque modéré, il n'y a pas d'obligation. En fait, ce qui est intéressant, c'est la catégorie haut risque. Et haut risque, dans lequel le règlement de l'AI Act met en place un système de certification qui ressemble un peu à ce que la commission Delors a fait pour la nouvelle approche en matière de règles de santé, de sécurité, d'environnement. Et c'est vraiment la même idée, c'est-à-dire qu'il faudra que le producteur appose, pour pouvoir faire circuler son produit, le mettre en vente et le faire circuler dans toute l'Union européenne, dans tout le marché unique, qu'il appose la fameuse étiquette CE, et cette étiquette CE garantira, par laquelle il garantira lui-même respecter le cahier des charges des normes techniques qui seront approuvées par les instances techniques européennes, et se prêter, le cas échéant, des contrôles de conformité tels qu'ils auront été prévus par ces mêmes normes techniques. J'attire votre attention sur le fait que dans ces applications à haut risque se trouvent notamment toutes les applications au secteur public de l'IA, ce qui ne veut pas dire évidemment que qu'un État comme la France sera obligé d'adopter ce genre d'application mise sur le marché, mais qu'elle ne pourra pas s'opposer à leur commercialisation. Elle n'aura aucun moyen de s'y opposer. Je rappelle qu'il s'agit d'un règlement et non pas d'une directive qui sera immédiatement applicable. Enfin, il ne sera pas immédiatement applicable, qui sera applicable lors de son entrée en vigueur sans nécessité d'aucune transposition nationale et sur tout le territoire de l'Union européenne. Et donc, vous avez les domaines de la santé, de la sécurité, des droits fondamentaux, y compris l'identification biométrique, les secteurs de l'éducation, donc du travail, de l'immigration, l'accès aux services publics, la justice, nous y voilà, hein, donc il y aura les algorithmes en matière de justice, et la police. Donc, le champ est absolument colossal, et si vous voyez, c'est au fond un mode de régulation privée par la certification technique, mais qui va permettre le déploiement majeur des algorithmes dans toute la fonction publique. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, donc, il y aura, l'IA donne quelques idées très vagues, et puis on va renvoyer au comité technique de l'Union européenne. Pour vous en donner une idée, voilà ce qu'il y a déjà des normes techniques qui sont au niveau global. Ici, vous avez l'I3E, qui sont les électriciens à l'origine, mais c'est eux qui ont fait les normes informatiques. Et là, vous voyez les normes sur lesquelles ils travaillent ou qui sont déjà faites et qui, dans lesquelles, par exemple, on va fixer la transparence, la protection de la vie privée, la protection contre les biais, tout ce qui concerne la protection des enfants, l'utilisation par les employeurs des algorithmes.